Amen. On va lire une portion des Écritures dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, débutant au verset 13. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clé du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qui ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale quand tu es « pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Ainsi soit-il. Amen. La parole du Seigneur, ce que Jésus a enseigner à ses disciples cette merveilleuse vérité. Et on peut voir par cela combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Je ne sais pas si on réalise des fois combien Dieu est grand. Tellement de choses qui nous arrivent, tellement de choses qui nous distraient. Nous sommes tellement, tellement charnels. On est tellement sur terre. Et des fois, on oublie la grandeur de Dieu. Combien Dieu est grand. Alors, en 1715, le roi Louis XIV de France mourut après un règne de 72 ans. 72 ans, le roi Louis XIV a régné. J'ai comparé avec la reine Élisabeth qu'on vient de perdre, mais elle a régné 70 années. Lui a régné 72 années. Alors, un temps, vraiment longtemps. Et Louis XIV s'est donné un nom à lui-même, s'est donné un titre, si vous voulez, à lui-même. Il aimait que les gens lui l'appellent Louis XIV le Grand. Louis XIV, le Grand. Sa cour, on parle de sa cour et le palais qu'il restait, sa cour était la plus magnifique de l'Europe. Et ses funérailles, lorsqu'il est mort, étaient tout aussi spectaculaires. Alors que son corps était dans un cercueil fait en or, des ordres ont été donnés pour que la cathédrale soit très faiblement éclairée avec seulement une bougie spéciale placée au-dessus de son cercueil pour dramatiser sa grandeur. Au service, des milliers de personnes ont attendu dans un grand silence. Alors l'évêque a pris la parole, se baissant lentement, il éteignit la bougie et il proclama « Seul Dieu est grand! » Seul Dieu est grand! Alors, j'imagine que peut-être ça a fait tourner Louis XIV dans sa tombe, je ne sais pas. Mais seul Dieu est grand, c'est ça la vérité. Seul Dieu est grand. Ésaïe, chapitre 40, nous dit « Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. » À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Ah, c'est vrai que Dieu est grand et il est le seul qui est grand. Alors, si on peut décrire ce matin pour débuter la grandeur de Dieu un petit peu, toujours, le toucher ce sujet un petit peu selon les Écritures, la grandeur de Dieu. Et notre Dieu est si grand, notre Dieu est tellement grand qu'il tient les océans, hein? La Bible nous dit qu'il tient les océans dans sa main et mesure les cieux avec ses doigts. Il est si fort qu'il a façonné les montagnes et creusé les profondeurs des mers avec la force de ses paroles. Et il est si puissant qu'il donne des ordres au matin et montre à l'aube sa place dans le ciel. Dieu peut tout faire. Amen. Dieu peut tout faire sauf échouer. Amen. Dieu peut tout faire. Est-ce que vous croyez cela? Répétez avec moi. Dieu peut tout faire. Amen. Demandez à Abraham qui a fait rebondir son bébé sur ses vieux genoux de 100 ans. Hein? Demandez à Joseph dans l'Ancien Testament alors qu'il regardait par la fenêtre du palais vers la prison qu'il appelait autrefois sa demeure. Demandez à l'homme de Dieu Moïse, alors qu'il se tenait sur un sol sec au milieu de la mer Rouge, je veux dire un sol sec. Ou que diriez-vous de Marie alors qu'elle tenait la petite main de son propre Seigneur et Sauveur? Ou le boiteux au temple, à la porte du temple, qui bondit sur ses pieds? Ou l'aveugle qui a regardé le coucher du soleil pour la première fois. Demandez à ce soldat qui se tenait au pied de la croix et qui savait dans son cœur qu'il avait vu Dieu. Demandez à Pierre, alors qu'il regardait dans le tombeau vide. Et alors, c'est vrai que Dieu est grand. Et ce même Dieu, je veux vous dire ce matin, est assez grand pour gérer vos plus gros problèmes dans votre vie. Il est assez grand pour ça. Il est assez grand pour répondre à vos prières. Il est assez grand pour prendre soin de vous. Il est assez grand pour venir à vos côtés. Il est là, assez grand pour vous consoler au travers les circonstances de la vie, au travers les épreuves de la vie. Nous sommes sur terre, c'est vrai, mais Dieu est là. Dieu est là pour vous et il est assez grand pour prendre soin de vous. Amen. Réjouissez-vous ce matin, car Dieu peut tout faire. Et lorsqu'on regarde l'évidence dans sa parole, lorsqu'on regarde l'évidence autour de nous, on peut dire vraiment, Dieu peut tout faire. L'importance, c'est est-ce qu'il peut tout faire dans votre vie, d'une façon personnelle? Oui, c'est un Dieu personnel, un Dieu de l'univers. Mais il a touché chaque personne, une personne à la fois, n'est-ce pas? Lorsque Jésus marcha sur cette terre, il touchait, il a guéri des gens. Mais c'était une personne à la fois, selon leurs besoins. La grandeur de Dieu. Et on peut voir la grandeur de Dieu au travail tellement d'évidence autour de nous et dans sa parole. Deuxièmement, regardons la puissance de son salut. La puissance de Dieu dans son salut. La Bible nous dit, ici dans Matthieu 28, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir! » Dieu est capable de tout faire. Tout pouvoir, Jésus dit, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et alors, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chose qu'on a faite pour Annette. Amen. Amen. C'est qu'est-ce qu'on a fait? Au nom de Jésus. Et alors, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est là pour nous. Il est là pour nous. Tout pouvoir m'a été donné, non seulement dans les cieux, mais sur la terre. Et il est notre Dieu. C'est sa promesse. Au début de l'humanité, la rédemption de Dieu s'est d'abord concentrée sur toute la race humaine. Au début, c'était toute la race humaine. Si vous regardez le plan de Dieu, c'était ça, Adam et Ève. Et ensuite, c'était ses enfants. Et ensuite, c'était ses petits-enfants. Et la rédemption était là. L'action de Dieu, la façon que Dieu travaillait, c'était avec eux. Eux tous, la race humaine qui était là. Mais au fil du temps, comme vous savez, son attention s'est réduite. De plus en plus, son attention s'est réduite de plus en plus petit de moins de personnes à cause de l'augmentation du péché. Parce que le péché a augmenté, Dieu a réduit son attention sur certains. Après que Caïn ait assassiné son frère Abel, l'attention rédemptrice de Dieu s'est réduite à la lignée de Seth. Seth était celui que Dieu avait choisi. Et lorsque le péché a commencé encore à dominer sur la lignée de Seth, Dieu a réduit son focus sur la lignée de Noé. Alors qu'il choisit Noé. Et après Noé, Dieu réduit son focus sur la terre, sur le peuple juif. Il a appelé Abraham, il a appelé le peuple pour porter son nom et pour évangéliser cette terre. Ensuite, au royaume, c'est réduit encore le peuple juif à juste une partie du peuple juif, juste au royaume de Juda. Et Juda, maintenant, avait été choisi. Et ensuite, au reste de Juda, qui ont retourné de la captivité en Babylone. Alors, c'était juste un restant de Juda. Et finalement, réduit, finalement, Jésus est venu. Le Seigneur, juste au bon temps, au temps parfait, au temps, au plan de Dieu, Jésus a venu. Une seule personne maintenant. C'est réduit jusqu'à une personne. Mais quelle personne que c'est ça? Amen. Nous avons tout pleinement en lui. Une personne, Jésus-Christ, et il est suffisant pour sauver. Amen. Il est suffisant pour sauver. Il est suffisant pour nous soutenir. Il est suffisant pour vous et pour moi. Maintenant, le processus va changer. Si vous regardez du début du temps, du début Adam et Ève et la façon que Dieu a marché avec eux, on voyait toujours le Messie promis, mais Dieu travaillait avec l'humanité. Réduit. Et ensuite, Jésus vient. Et maintenant, Jésus va changer, Dieu va changer le processus, la façon qu'il va agir avec nous, avec l'humanité. Lorsque Jésus est venu sur la terre, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de croyants réels. Il y avait beaucoup de religions. Il y avait une religion forte, elle était très forte, il y avait beaucoup de règles, beaucoup de commandements, mais de dire qu'il y avait beaucoup de croyants, non. Les gens ne croyaient pas. Un bon exemple pour décrire ce processus, si je peux utiliser l'exemple d'un un baril de pommes, c'est facile, et on peut... Regardez un baril de pommes. Au début, le baril, c'est-à-dire l'humanité, le baril était plein de bonnes pommes. Dieu créa l'homme. Et cependant, chaque fois qu'une pomme devenait mauvaise, comme on a vu la lignée de Seth, la lignée d'Abraham, et ainsi de suite, lorsqu'on voit que chaque fois que une pomme devenait mauvaise, Dieu la retira du baril de peur qu'elle ne pollue les pommes restantes. Une pomme pourrite gâte le tonneau, on dit. Hein? Alors, Dieu enlevait. Dieu choisissait quelqu'un. Dieu appelait quelqu'un. Et c'était comme ça. Dieu enlevait la pomme pourrite. Le processus, c'est poursuivi jusqu'à ce qu'il ne reste que très peu de pommes dans le baril. Très peu de pommes, pas beaucoup d'espoir, là, mais à l'époque du Nouveau Testament, le contraste est vu. Lorsque Jésus est venu, le contraste, maintenant, on le voit. Le focus de Dieu s'est arrêté avec Jésus. C'était Jésus. Il a envoyé son Fils, Jésus, sur cette terre qui était parfaitement fidèle à Dieu. On a chanté concernant la fidélité de Dieu. Et alors, c'était maintenant Jésus qui est parfaitement fidèle envers Dieu. Les autres lignées, les hommes, il est fidèle peut-être pour un peu de temps, mais avec le temps, on va attendre que ça répond. On va dire, allô? Allô? Je suis à l'église. Veux-tu venir? Elle va l'avoir. Parce que je sais, vous ne vous concentrez pas, vous concentrez sur la sonnette. Tiens. Ah, OK, il est abandonné. OK. Amen. Oh, c'est pour moi? Non, pas pour moi. OK. OK, alors le focus maintenant est sur Jésus, et à partir de ce moment, Dieu a élargi son objectif rédempteur. Elle a commencé à Jérusalem, comme ça nous dit, puis dans toute la Judée, ensuite dans la Samarie, et elle embrasse maintenant le monde entier. Le monde entier. Wow! Mais vous recevrez une puissance. Toute puissance m'a été donnée, Jésus a dit. Mais voici maintenant, vous recevrez, vous, l'Église, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoin. Amen. Alors, la conquête du péché par le Seigneur Jésus-Christ et sa prise de toute autorité dans le ciel et sur la terre sont la raison maintenant de l'expansion. Avant, c'était réduit, réduit, réduit. Maintenant, on va voir l'expansion. Les paroles de Jésus dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné » reflète ce nouvel objectif universel de la rédemption de Dieu. Maintenant, Dieu ouvre tout grande la porte du salut. L'exemple du Berry a maintenant besoin d'être développé complètement, transformé, si vous voulez. Au temps de Jésus, le Berry contenait très peu de pommes, comme nous avons constaté. Par contre, Dieu dans sa grande sagesse, Dieu dans son amour, a commencé à prendre, écoutez, à prendre des pommes pourrites à l'extérieur du berry et de les mettre dans le berry. Hein? Ça a-tu du sens, ça? Non. Ben non, on enlève la pomme pourrite. Mais voici maintenant que Dieu prend une à la fois, une pomme pourrite à l'extérieur du berry et de les mettre dans le berry. Le phénomène qui se produit, c'est qu'au lieu de polluer, les bonnes pommes, les mauvaises pommes ont été transformées. La transformation de l'homme intérieur en bonne pomme maintenant par sa grâce. Amen! Quel miracle! Quel plan! Personne n'aurait pu penser à ça, mais Dieu l'a fait et Dieu l'accomplit. Ce processus se poursuivra jusqu'à ce que le nombre total de pommes soit introduit dans le berry et alors nous rentrons à la maison du Père. Ah! Jusqu'à la dernière âme soit sauvée. Lorsque la dernière pomme pourrite sera transformée par la puissance de Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix et le tombeau vide, on rentre à la maison, frères et sœurs. On rentre à la maison. La puissance rédemptrice de Dieu envers quiconque croit est une merveille à voir. Wow! Nous devrions être éternellement reconnaissants envers Dieu qu'au lieu d'être retirés de son royaume pour nos péchés, nous avons été ajoutés à son royaume par le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire amen à ça? Amen. Et on le voit et on le témoigne dans notre propre cœur et dans le cœur de d'autres personnes. On a référé le baptême d'eau qu'on a eu. Bien, vous savez, ça, on se réjouit en une seule âme, comme le ciel. Les anges dans le ciel se réjouissent d'une seule âme. Et lorsque quelqu'un dit, moi, je veux suivre le Seigneur Jésus pour le restant de mes jours. On sait qu'il y a eu une transformation intérieure. Maintenant, la pomme pourrite est devenue transformée par la grâce de Dieu. Alléluia! Ce n'est pas par vos œuvres, frères et sœurs. Hein? Nous étions tous des pommes pourrites, mais Dieu, miraculeusement, il nous a transformés en une nouvelle créature. Vous êtes une bonne pomme. Amen. Amen. C'est ça, la puissance de Dieu. C'est ça, la puissance de son salut. Et troisièmement, on peut regarder la sécurité de notre salut ou la sécurité de sa demeure que Jésus prépare pour nous, la sécurité de cette demeure. Et Jésus a dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Amen. C'est pas que le diable sort de l'enfer pour essayer d'aller chercher des hommes, mais c'est plutôt l'Église, c'est plutôt nous, c'est plutôt Christ qui attaque les portes du séjour des morts pour sauver les hommes, les pommes pourrites, et qu'ils puissent être ajoutés au royaume de Dieu. Et il dit, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » No way! Il n'y a pas un démon, le diable lui-même ne peut pas l'arrêter. Le plan de Dieu. Le mot « porte », les portes du séjour des morts, c'est intéressant si on peut regarder le mot « porte ». Parce que le mot « porte » ici contient des vérités importantes. Par exemple, les portes du séjour des morts, ils montrent une guerre cosmique entre les deux royaumes. Celui qui représente la mort, les ténèbres, et il est protégé, ce royaume, par une grande porte barrée. La porte du séjour des morts est barrée. Et l'autre royaume est triomphant et construit de pierres vivantes, la Bible nous dit, entouré de grandes portes. Également 12 en réalité pour la Nouvelle Jérusalem. 12 portes, des grandes portes. Mais la différence, c'est que c'est des portes ouvertes. Des portes tout grandes ouvertes, invitant la multitude de jouir de la paix et de la lumière qui est trouvée en Jésus-Christ. C'est la cité de Dieu victorieuse. Et alors, on a cette image des deux portes, des portes de l'enfer, qui n'est pas très, très plaisant, mais les portes du ciel, les portes de la Nouvelle Jérusalem, de cette ville, la cité de Dieu. Les villes anciennes, vous savez, de la Bible, avaient besoin d'être protégées de leurs ennemis, protégées de leur environnement. Ils avaient des murs tout autour de la cité, et on nous dit que le marché central et les rassemblements et les célébrations communautaires n'étaient pas au centre-ville, comme nous autres, on a l'habitude de le faire. Il y a toujours un centre-ville. Mais plutôt, le marché central et le centre-ville n'étaient pas au centre, mais c'était auprès des portes. C'était là que se passaient les activités, auprès des portes. Et alors, les portes, vraiment représente le peuple, ça représente la culture du temps, ça représente la vie de la ville, les portes, l'importance des portes. Et ainsi, lorsque Dieu promet à son peuple sûreté et sécurité, paix et prospérité, il leur promet une ville avec de hauts murs et des portes solides. Des hauts murs, et si vous étudiez concernant la Nouvelle Jérusalem, elle a des hauts murs et 12 portes. Mais n'est-ce pas intéressant que Dieu décrit la cité céleste comme ayant ses portes tout grandes ouvertes? Encore un autre concept de Dieu. Des portes tout grandes ouvertes. Quiconque veut venir. C'est pas merveilleux ce matin, lorsque vous entrez dans sa présence, au nom de Jésus, que vous avez ce matin loué et adoré le Seigneur, que vous n'avez pas trouvé des portes fermées, mais les portes sont ouvertes. Son oreille est penchée vers vous. Alors, la différence entre les portes du séjour des morts qui sont barrées et les portes du royaume de Dieu qui sont tout grandes ouvertes. Vous vous rappelez du psaume 24 qui nous dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. » Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Il va avoir un jour, frères et sœurs, où ce que Jésus-Christ va entrer lorsque la Nouvelle Jérusalem va descendre sur terre et être avec les hommes. Jésus va entrer. Il va entrer. Et qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ. Voilà l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et alors, c'est la prière. Porte élevée au linteau. Un jour, ça va arriver. Élevez-vous, porte éternelle. Et que le roi de gloire fasse son entrée. On utilise également ce psaume pour dire, ouvrez tout grand vos cœurs. Et le roi de gloire entrera dans votre esprit. Quel miracle! Quel miracle! Et alors, pour l'homme, Dieu a ouvert ses portes. Dieu a ouvert les portes de son cœur. Et un jour, nous allons suivre Jésus et nous allons faire notre entrée aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia! Et les portes sont ouvertes pour vous et moi. Lorsque le roi de gloire, lorsque le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs entrera dans la ville, les portes s'ouvrent, tout grandes pour le recevoir. Le Seigneur des Seigneurs est entré dans sa ville. Dans sa ville, il protégera ses murs et assurera sa sécurité. À ce moment-là, le livre de l'Apocalypse est encore plus descriptif lorsqu'on regarde la cité de Dieu, les hautes murailles de la Nouvelle Jérusalem ont une douzaine de portes. Vous savez, ça, c'est beaucoup de portes. 12 portes, c'est beaucoup de portes. Et ces portes ne seront jamais fermées. Wow! Ils ne seront jamais fermées. Le diable et l'enfer est tellement insécure que ces portes doivent être barrées. Mais voici qu'un jour, lorsqu'on parle de la cité de Dieu, dans Apocalypse chapitre 21, verset 25, dit « Ces portes », en parlant de la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, « Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. » Les portes vont être toujours ouvertes, afin qu'on puisse entrer et sortir à libre choix, entrer et sortir. Sortir lorsque Dieu va nous envoyer à faire un job à quelque part, entrer et juste comme ça. Pas avec des chars électriques, OK? Non. Vous allez avoir toute puissance m'a été donnée. Et nous allons avoir accès toujours ouverte. Nous aurons ça veut dire libre accès. Il y aura sécurité, il y aura paix et il y aura fraternité. Fraternité avec les anges, fraternité avec Moïse, fraternité avec Abraham, fraternité avec Marie, fraternité avec Joseph, fraternité avec les gens sur terre. Wow! Ça va être le ciel, le ciel. On dit le ciel sur la terre. Oui, le ciel sur la terre. La sécurité, la cité de Dieu qui viendra et Dieu habitera avec l'homme. Alléluia. Par contraste, les portes de l'enfer, comme j'ai dit, sont fermées. Le diable veut nous faire croire que c'est un signe de puissance, que c'est un signe de force, mais c'est la peur, qui barre les portes du séjour des morts. Les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. Ça veut dire que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre Christ, ne prévendront point contre l'Église de Jésus-Christ, contre son Église. Nous avons l'œuvre de Dieu à accomplir. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné afin qu'on puisse aller par tout le monde et prêcher l'Évangile. Nous avons une tâche à faire et les portes du séjour des morts ne prévendront point, ne pourra pas nous arrêter à faire l'œuvre de Dieu. Dans cette image, la ville de Satan est assiégée. C'est la ville de Satan qui est assiégée. Ses portes s'effondrent devant les armées du ciel et devant le peuple de Dieu qu'on vient au nom de Jésus. Et on attaque. Nous sommes l'armée du Seigneur. Amen. Alors, l'enfer n'est pas une forteresse puissante ou une ville florissante. C'est une prison. C'est une prison. Apocalypse chapitre 20 nous dit « Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. » Je n'ai pas mis le verset pour ça, je le cherchais. Mais Apocalypse 20, verset 7 dit « Quand les mille ans seront accomplis, les mille ans de paix sur terre, Satan sera relâché pour un temps de sa prison. » Voyez-vous, le séjour des morts, c'est une prison qui sera jetée dans l'étang de feu pour l'éternité. Et alors, lorsque cette ville sera finalement détruite, ses citoyens démoniaques seront finalement jetés dans l'étang de feu. Ils ne pourront plus nuire. Le peuple de Dieu, ce sera fini. Plus de combats, frères et sœurs. Plus de combats. Plus de fardeaux. Plus de misère, plus de questions, plus de doutes, plus de pleurs, plus de misère, plus de souffrance. Tout ça va disparaître. Et maintenant, c'est un nouveau ciel, une nouvelle terre. Amen. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom de Jésus soit béni, élevé soit le nom de Jésus. Et alors, nous pouvons dire avec le Seigneur, « Viens, Seigneur Jésus, viens. » Et le Seigneur va venir un jour, très bientôt. Et nous serons alors pour toujours avec le Seigneur. Amen. C'est-tu une bonne nouvelle, ça, ou non? Hein? Wow! Nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Être l'éternité. Imaginez être là, si je serais là, si je vais être là, moi, pour l'éternité, avec Shirley Sears. Ça va être correct, Shirley, de mourir à tous les jours. Je ne sais pas. Hein? Ou avec Lucille, ou avec Bertin. Hey! Hein? L'éternité! Hein? Avec Irénée, 81 ans, et là-bas, on oublie ça. On oublie ça. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et alors, on peut dire, entre-temps, « Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Amen. Alors, c'est en deux étapes, n'est-ce pas? La première étant entrée maintenant dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'il fasse son entrée. Amen. Prends ta place. Règne en moi, Seigneur. Amen. Et ensuite, la deuxième étape, nous allons littéralement entrer dans ces portes éternelles. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais terminer avec un chant, si Robin peut venir m'assister, m'aider dans ce chant qui nous dit combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. C'est vrai que Dieu est grand, n'est-ce pas? Combien Dieu est grand. Seigneur, merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour, Seigneur, pour nous. Le plein que tu as, Seigneur, que tu as transformé des pommes pourrites en pommes transformées en saints. En saints. Pas notre sainteté, mais à cause de ta sainteté. Tu nous as fait de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Seigneur, on veut juste te louer ce matin. On veut juste te bénir. On veut juste te remercier pour ce grand salut. Et alors, je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir ce matin et remplir le cœur de chaque personne à ce lieu, remplir leur cœur de joie pour qu'est-ce qui s'en vient au nom de Jésus. Amen.